Au commencement, ceci n'est pas une préface. La phrase n'est pas une référence à Magritte et sa pipe qui n'en est pas une. Je vous précise que ceci n'est pas une préface pour mieux capter votre attention et augmenter les chances que vous écoutiez ce préambule. D'ailleurs, avez-vous vraiment écouté les préfaces qui introduisaient ce livre audio? L'attention est le résultat de mécanismes mentaux qui, en fonction de votre expérience, vont décider d'attribuer ou non des ressources cérébrales à une tâche. Le processus est automatique. Il dirige seul la majorité du temps votre attention sur le monde qui vous entoure pour vous éviter de prendre des décisions conscientes à chaque instant. Ça serait épuisant mentalement. Votre cerveau crée des automatismes de pensée au fil de votre vie. Il analyse ce que vous vivez et met en place des raccourcis pour gagner du temps et de l'énergie la prochaine fois qu'une situation analogue se présentera. Une préface qui n'apporte rien au livre que j'entends? Je passe. Le générique d'une série? J'appuie sur le bouton « Passer ». Le discours annuel du directeur de ma société? Je vais me mettre au fond de la salle pour regarder en même temps ce qu'il se passe sur Instagram. Pour que vous soyez attentif aux 48 000 mots qu'il vous reste à écouter, il faut que je donne du sens, du rythme, que je titille votre curiosité. Il faut que je construise un texte où les passages sérieux arrivent après un enchaînement digeste et divertissant. Que je rende votre écoute captivante en y mettant du suspense. Ce qui tombe à point nommé, puisque j'ai justement une histoire à vous raconter. Le 4 juin 2023, j'ai publié sur YouTube une vidéo ayant pour titre « Pourquoi TikTok a déjà détruit votre futur ?» Oh, pas sur ma grosse chaîne aux 2 millions d'abonnés, mais sur une petite chaîne annexe où je publie de manière irrégulière. Bien que ce compte secondaire ne réunisse que 150 000 abonnés, la vidéo va vite me glisser des mains et réaliser le score insensé de 950 000 visionnages. Mais le moment où l'histoire commence à être vraiment surprenante, c'est quand j'ai analysé les commentaires de la vidéo. La moitié d'entre eux me confirmaient que TikTok serait bien l'antre du diable et que la vidéo avait bien raison de dénoncer cette plateforme ridicule et inutile. Le reste des interventions était là au mieux pour me contredire, au pire pour m'insulter, sous prétexte que je ne connaissais rien à TikTok, que je n'étais qu'un boomer de plus qui refusait le progrès qu'apporte cette application. J'étais donc soit un génie, soit un débile, mais personne n'arrivait vraiment à trancher sur ce point. De mon côté, je crois que les deux camps se trompaient. Mais avant de vous expliquer pourquoi, revenons sur le titre de la vidéo. J'assume son aspect volontairement aguicheur. J'ai moi-même envie de cliquer sur cette vidéo pour savoir ce qu'elle raconte. Comme pour un livre dont la couverture doit attirer votre regard dans la librairie, le titre d'une vidéo doit capter votre œil et vous donner envie d'en savoir plus. Mais il suffit de regarder ma vidéo pour comprendre que le sujet de TikTok n'est qu'un tremplin pour développer un propos plus large, celui de l'attention, et que je ne charge pas l'application de tous les mots. Je ne la défends pas non plus. TikTok n'est qu'un support à ce que j'ai à dire. J'aurais pu en choisir un autre, mais j'ai préféré celui à la mode pour que l'audience s'y intéresse plus. Je ne recommande pas de boycotter ce réseau comme le pense le premier camp, et, contrairement à ce que pense l'autre camp, je n'y suis pas étranger puisque j'y rassemble plus d'un million d'abonnés sur mon compte personnel. Quand j'ai constaté qu'une vidéo qui aborde le sujet de l'attention a généré 2000 commentaires faisant preuve d'un survol manifeste de ce qu'elle raconte, je me suis posé la question de la rédaction de ce livre. Attendez, revenons encore un peu en arrière, juste avant que je décide d'écrire la vidéo en question. Ne vous inquiétez pas du fil de notre conversation, tout sera bouclé et cohérent à la fin du chapitre. Comme j'en vois qui se posent la question, je préfère vous rassurer. Quelques mois avant la publication de la vidéo, j'ai eu un certain nombre de rendez-vous médicaux au cours desquels je me suis amusé dans la salle d'attente. Je voulais savoir en combien de temps un patient allait sortir son téléphone et, si possible, je voulais également savoir ce que la personne allait faire ensuite, une fois l'écran déverrouillé. Sur un échantillon réduit à une centaine de personnes chez trois praticiens différents, j'ai pu noter qu'il fallait moins de 5 secondes sur 92% des adultes pour que le précieux téléphone soit dégainé une fois la personne assise dans la salle d'attente. là où j'ai dû paraître étrange, c'est quand j'essayais, dans la mesure du possible, de voir ce qu'il faisait en premier, une fois le téléphone déverrouillé. Imaginez la scène. Vous sortez votre téléphone et le patient de l'autre côté de la pièce, on s'assoit toujours à l'opposé de la personne déjà présente, chacun son territoire, se lève pour faire les 100 pas. Vous relevez les yeux en sentant qu'il est proche de vous et vous le voyez regarder votre écran sans sourciller. J'ai vécu des moments gênants, mais j'ai trouvé ce que je cherchais. Dans la grande majorité des cas où j'ai pu lorgner sans passer pour quelqu'un de curieux de lire les messages des autres, les patients cherchaient quelles applications ils allaient utiliser, ou bien ils passaient frénétiquement d'une application à une autre, toujours les mêmes, dans une sorte de boucle infernale, pour voir si une notification salvatrice était apparue. En conclusion, nous sortons nos écrans tactiles par réflexe, avant même de ressentir le moindre symptôme d'ennui. L'utilisation du téléphone précède l'intention même d'y faire quelque chose de précis. J'en profite pour vous présenter mes excuses si vous m'avez croisé en train de regarder par-dessus votre épaule dans une salle d'attente ou dans le métro, puisque j'ai réitéré l'expérience dans les sous-sols parisiens. Moins de personnes y sortent leur téléphone. Ce qui peut être surprenant de prime abord s'explique par l'habitude de ce mode de transport. Certains dorment, d'autres ont prévu un livre, un magazine ou un journal à feuilleter. Beaucoup s'organisent en amont pour ce trajet quotidien, contrairement aux rendez-vous médicaux qui sont habituellement exceptionnels. En revanche, j'ai été surpris de voir dans le métro des personnes qui actualisaient en vain leur email, leurs réseaux sociaux ou une page Internet. Visiblement, personne ne capte de réseau, mais le cerveau, habitué à déléguer son attention à cette extension de nos 5 doigts, préfère fixer une barre de chargement immobile plutôt que de se résigner à faire autre chose. Merci à mon ophtalmo, ma parodontiste, ma dentiste et aux usagers de la ligne 3 pour cette expérimentation. Passionnant, n'est-ce pas? D'ailleurs, une étude réalisée par Atlas VPN démontre qu'une personne lambda passe en moyenne 2h et 24 minutes par jour sur les réseaux sociaux, soit 876 heures par an. En le traduisant en journée, ce temps passé est de 36,5 jours par an. Si on analyse davantage ces informations, on peut également raisonner en termes de temps actif. Chaque jour, nous dormons en moyenne 8 heures, ce qui nous laisse 16 heures de temps actif et disponible. Et encore, je suis assez sympa en laissant les temps d'hygiène et de repas dans ce temps de disponibilité. En temps actif, une personne passe en moyenne plus de 54 jours par an sur ses réseaux sociaux, ce qui représente presque 2 mois. Peut-être pas vous, puisqu'il ne s'agit que d'une moyenne. Mais il est fort probable que vous connaissiez des personnes qui sont bien au-delà de ces 54 jours. Il est temps pour moi de raccrocher les wagons de mon histoire. Et vous comprenez donc ce qui a fourni la matière première à ma vidéo de 2023 et qui m'a donné l'impulsion pour l'écriture de cet ouvrage. Si les adultes sont touchés, les plus jeunes vont subir des conséquences encore pires dans quelques années. Une répercussion qui va au-delà de la possibilité d'être attentif ou non. C'est à l'adolescence et en tant que jeune adulte que nous rêvons notre futur, que nous tentons des choses, que nous nous confrontons à nos premiers échecs et à nos premières réussites. L'attention est notre meilleur allié pour nous nourrir du monde qui nous entoure, pour accumuler de l'expérience et pour laisser à la motivation sa place de moteur. Comment faire quand cette attention est malmenée au point que nous n'arrivions même plus à regarder un film à la télévision sans traînasser en même temps sur notre téléphone? Cette phrase vous fait-elle penser à quelqu'un que vous connaissez? Il faut toujours plus de sollicitations pour stimuler notre cerveau. C'en est devenu une addiction. Rappelez-vous le fil rouge de ce chapitre que je persiste à répéter. Ceci n'est pas une préface. C'est un petit manifeste. L'attention est aujourd'hui un véritable enjeu. En perdant des points de cette faculté, le cerveau perd son pouvoir et sa capacité à mobiliser les ressources cognitives correctement. N'ayez pas peur du mot cognitif, je vous l'expliquerai en temps voulu. Sans motivation, un être humain ne peut pas s'accomplir. Dès lors, un pont vers un possible épisode dépressif se construit de lui-même. C'est aussi un manifeste, car l'attention est également un enjeu de santé mentale. Cette faculté devrait être enseignée dès l'école primaire. Elle est le socle de la mémoire, de la réflexion, de la relation sociale et plus encore. Le comprendre et savoir en prendre soin, c'est aussi refuser de laisser ceux qui l'ont étudié en faire un commerce au mépris des conséquences. Nous sommes responsables de ce que nous faisons de notre attention et de celle des autres. Ce week-end, j'ai assisté au discours d'un dirigeant d'une société, lors d'une soirée qui se voulait festive. Le discours sur un prompteur était morne, sans vie, sans relief. Sa lecture était soporifique et tristement attendue. Est-ce vraiment de la faute des 300 collaborateurs présents si tout le monde a décroché du discours, passant ainsi à côté du message que voulait délivrer leur boss? Non. Nous devons aussi nous adapter à la norme attentionnelle actuelle sans la juger. Comme j'essaie de le faire depuis le début de ce texte, même cet aparté sur un autre ton m'aide à stimuler votre intérêt. Nous sommes tous responsables de l'attention avec un grand A. Utilisez ce livre audio pour vous-même, pour votre entourage, pour capter l'attention des autres, mais aussi pour brusquer un système qui malmène nos ressources cérébrales. L'attention est le plus précieux des cadeaux. Lao Tzu, philosophe.